Voilà, gloire à Dieu. Donc on avait un bon Français, un Européen, un Africain et un Juif. Shem, Ham et Yafet. Alors pour la petite plaisanterie, ça c'est Shem, c'est un passeport israélien. Ça c'est Ham, c'est mon passeport ivoirien. Et ça c'est Yafet, c'est mon passeport français. Voilà, on a eu. Tu vois, avec moi, tu aurais eu les trois. Gloire à Dieu, on est dans la joie et je suis particulièrement dans la joie d'être avec vous ce matin pour venir personnellement vous remercier de l'amour que vous nous avez témoigné. À savoir, lors de la venue de votre pasteur, il y a exactement une année de cela, avec son épouse, ses enfants, il était à Jérusalem, dans les locaux de l'Institut de la Faculté de Théologie, et il a constaté un peu les dégâts, les persécutions que nous traversions à l'époque avec nos voisins musulmans du Fatah, de M. Arafat, qui s'acharnait contre nous, puisque le bâtiment de l'Institut de la Faculté n'était autre que le siège du Fatah de M. Arafat, qui avait été mis sous scellé à cause d'un meurtre, un directeur d'un journal palestinien qui avait été assassiné. Et puis, avant M. Arafat et le siège du Fatah, c'était le siège de l'armée jordanienne en 67, c'était le bâtiment de la frontière jordano-israélienne, rue des Prophètes à Jérusalem, qui séparait la ville, qu'il a scindée de l'est avec le reste de la ville. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il y a un puits au sous-sol, à l'intérieur duquel il y a des armes des soldats jordaniens qui, dans la précipitation, ont jeté les armes dans le puits. Elles y sont, semble-t-il encore. Ils ont fui, et puis ensuite, Jérusalem-Est a été récupérée, et nous sommes dans le temps des nations, puisque la ville de Jérusalem est dans sa totalité la propriété de l'État d'Israël. Ce qui signifie que Jésus peut revenir cette nuit. Est-ce que vous le saviez ? Donc, en tout cas, on vient vous remercier parce qu'il avait constaté, votre pasteur, qu'on manquait cruellement d'un bon frigo pour alimenter nos 40 étudiants à plein temps qui étudient sur le site de l'Institut de la Faculté. Donc, votre Église a témoigné vraiment de son amour à l'égard du peuple d'Israël et de l'œuvre de Dieu là-bas en nous achetant une chambre froide. Voilà. Alors, je tiens à vous remercier personnellement et j'ai pensé que c'était quand même bien de venir apporter un cadeau à votre pasteur. La première Bible, première alliance, seconde alliance, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Hein. Je ne dis pas Ancien Testament et Nouveau Testament, ça voudrait dire que l'Ancien ne compte plus. Mais moi, je crois à l'inspiration et à l'inhérence des 66 livres de la Bible. Donc, je lui remets la première Bible hébreu-français, reliée dans une même reliure en cuir, avec son nom, un Sefer Torah, sur une plaque qui a marqué « Pasteur Franck Le Filâtre ». Voilà.
Merci à toi. Viens, t'embrasse quand même.
Elle est fraîchement sortie et l'AEP et l'Action Missionnaire des Assemblées de Dieu, l'association Avat Sion, les APDC, les églises APDC du Canada ont participé à l'élaboration de ce travail fourni par une vingtaine de nos étudiants de la faculté en fin de cycle fraîchement licenciés, ainsi que les masters, les masters 1 de la faculté qui ont travaillé à la révision et la correction de cette Bible pour permettre que des juifs francophones soient évangélisés avec un outil à la disposition de ceux qui veulent les évangéliser, parce que je crois fermement à cette parole de Romains 16, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, proton, d'abord, donc, qui rappelle que proton, prototype, il fallait un prototype et un peuple prototype pour qu'on puisse sortir en série des millions et des millions d'hommes et de femmes sauvés, nombreux comme le sable de la mer. Alléluia ! Et je me réjouis de savoir que dans le monde entier, l'évangile est annoncé, mais qu'en Israël aussi, nous étions en 98, 3000 et quelques croyants. En 2015, nous sommes 15 000 juifs croyants en Jésus. Amen. Mais c'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de cela et on vous invite vraiment à intercéder, à continuer de prier pour nous, pour que encore on puisse sortir dans les rues librement comme on le fait pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà, en tout cas un grand merci à vous tous. Nous sommes dans la joie de commencer cette année avec bonne quarantaine d'étudiants en pension complète dans nos structures. Et la particularité de ces étudiants qui arrivent de plus en plus nombreux, puisque déjà pour l'année prochaine, on a pratiquement le quota atteint pour la rentrée 2016-2017, ce qui est miraculeux, quand on connaît un peu le contexte, les informations, etc. Et on a de plus en plus de couples qui viennent avec des enfants, qui se forment, vendent leurs biens, vendent leur maison, vendent leur voiture, se débarrassent de tout ce qu'ils possèdent pour ne plus rien avoir, simplement des fonds pour se former dans la connaissance et s'enraciner dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ensuite, ils sont envoyés dans nos communautés. Amen. Cette année, environ 3 ou 4 de nos étudiants ont dû investir une église sous la responsabilité d'un pasteur référent pour commencer leur stage pastoral. On bénit le Seigneur de ce que nos communautés vont être pourvues et seront pourvues de toute façon d'hommes et de femmes qui, avec une vision honnête et sincère des choses de Dieu. Vous savez, c'est de plus en plus rare de voir des gens se dépouiller de tout ce qu'ils possèdent afin de se former en vue d'entrer dans le ministère. C'est de plus en plus rare et cependant, eh bien, on croit que Dieu est en train de souffler tout à nouveau et que de plus en plus de jeunes et se lèvent, et même de moins jeunes se lèvent pour servir le Seigneur à plein temps. Que Dieu soit loué pour ce qu'il fait et ce qu'il fera encore. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1er. Et nous lisons ensemble cette parole de l'Écriture et cette histoire que nous connaissons tous les uns et les autres. Genèse chapitre 4, verset 1er. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel son frère et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. » Gloire à Dieu pour ces paroles, semble-t-il, somme toute terrible, mais des paroles réelles de la parole de Dieu, des saintes écritures. Voilà, nous avons là dans ce texte une histoire un peu particulière. Nous allons voir bien sûr deux hommes, Caïn et Abel, avec deux destinées différentes, certes. Et nous considérons dans cette histoire que Abel va offrir une offrande au Seigneur et que le Seigneur va la recevoir, l'accepter, et que Caïn lui va offrir aussi une offrande au Seigneur qui sera comme réfutée, refusée. Et nous avons tous les uns et les autres dans cette salle, dans ce lieu, le sentiment que dans la Bible, il semblerait s'y trouver quelques injustices, n'est-ce pas ? N'avez-vous jamais pensé un seul instant que finalement, même dans l'Écriture, on semble y trouver quelques injustices ? Est-ce que vous pensez que Dieu est injuste ? Est-ce que vous pensez que Dieu est injuste ? Dieu n'est pas injuste et sa parole n'est pas injuste. Et je dirais qu'en lisant dans le texte originel, nous allons nous rendre compte que la parole de Dieu ne ment pas, elle confirme les attitudes et les comportements de Dieu. Dieu n'est pas injuste. Il est appelé le soleil de justice. Il est juste. Et il nous considère les uns les autres de la même façon. Il nous aime du même amour. Il a exactement la même considération, autant pour les uns que pour les autres. Il ne fait exception de personne. Il nous aime tous. Cependant, nous sommes nous les facteurs déclenchants de la bénédiction de Dieu. Ou non ? Nous pouvons être nous-mêmes des freins à l'action et à la bénédiction de Dieu. Comment pouvons-nous considérer que Dieu va bénir Abel et qu'il va comme valider son offrande et qu'il ne va pas bénir Caïn en ne validant en aucun cas son offrande? La Bible est explicite. La différence entre les deux hommes, c'est que lorsqu'on lit dans le texte originel, nous nous rendons compte que finalement, lorsque Caïn va faire son offrande, que nous dit l'Écriture? Vous avez votre Bible en main, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Que va offrir Caïn à Dieu? Qu'est-ce qu'il est écrit? Caïn apporta, il apporta quoi? Du fruit de la terre. C'est ce que vous avez dans votre Bible? Alors, quand je vais demander à ce qu'on envoie la première vignette, moi, ce que je lis dans le texte originel, c'est que Caïn va offrir à Dieu ce que l'on appelle Miketz Yamim. Miketz Yamim en hébreu signifie après des jours. Caïn va offrir à Dieu des fruits de fin de saison. Est-ce que vous avez déjà acheté des fruits de fin de saison? Levez la main. Qui a déjà acheté des fruits de fin de saison? Qui a fait une envie de fraises au mois de décembre et a acheté des fraises de fin de saison qui poussent dans les serres en Espagne? Elles n'ont pas de goût. Et vous les avez payées énormément cher. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu des fruits de fin de saison. Caïn, il lui restait quelques fruits, certainement, dans l'endroit où il logeait. Il les avait conservés au frais. Mais ces fruits de fin de saison nous rappellent qu'ils sont peu goûteux, rachitiques, voire flétris. Ils sont plus petits que des fruits de saison. Ils manquent de soleil et ils manquent de sucre. Et ce matin, tu te dis, mais comment se fait-il que mon voisin est constamment béni alors que moi, ma prière, elle ne dépasse pas le plafond et que je ne vois aucun exaucement à mes prières? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu es venu offrir à Dieu? Est-ce que tu es venu apporter à Dieu une louange et une adoration qui est finalement exprimée avec ton intelligence, avec ta tête, avec tes capacités humaines? Ou est-ce que, à la différence de ton voisin, qui lui est venu apporter à Dieu une louange et une adoration sous l'onction du Saint-Esprit? Est-ce qu'avant de venir dans le lieu de culte ce matin, tu t'es préparé, certes, tu t'es préparé à mettre tes plus beaux vêtements? Et tu as peut-être passé un temps infini dans la salle de bain, mais est-ce que, avant de passer un temps infini dans la salle de bain, tu as passé un temps infini peut-être au pied de ton lit pour demander à Dieu de pouvoir manifester sa gloire à travers ta louange et ton adoration? Et est-ce que tu as demandé à Dieu de mettre une approbation, de le sceau de son esprit sur ta vie pour que ta louange et ton adoration puissent embraser les voisins de ta rangée? Est-ce que Dieu a besoin de tes fruits de fin de saison? Dieu, excusez-moi l'expression, se moque de tes fruits de fin de saison. Dieu se moque de tes plus beaux billets de banque que tu vas mettre dans le tronc à la sortie en guise d'offrande ou de dîme. Dieu n'a pas besoin de toi pour faire son œuvre. Dieu n'a pas besoin de moi pour faire son œuvre. Dieu n'a pas besoin de chacun de nous pour faire son œuvre. Il pourrait accomplir son œuvre simplement lui seul avec une armée d'anges. Cependant, il nous invite à nous les uns les autres, non pas à être des spectateurs dans le culte, mais à être des acteurs, des participants. Alléluia! Nous sommes des participants. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont sur l'estrade et qui exercent un ministère de louange et d'adoration. Et il n'y a pas de différence entre ceux qui viennent sur l'estrade pour apporter une exhortation de sa part, un message qui vient de la parole de Dieu. Il n'y a aucune différence entre celui qui est sur l'estrade et celui qui est dans l'auditoire. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes tous, non pas spectateurs, mais acteurs de son royaume, acteurs dans sa maison, participants. Nous sommes participants de manière intégrante au royaume de Dieu. Tous, chacun et chacune d'entre nous, nous sommes importants à ses yeux. Et nous avons une responsabilité formelle. Nous avons une responsabilité, celle de pouvoir élever son nom et celle de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Tu viens dans la maison de Dieu avec tes miketz yamim, des fruits d'après des jours, des fruits de fin de saison. Il y a peu de goût dans ta louange. C'est peut-être une louange répétée. Il y a peut-être peu de contenu dans ta louange, dans ta manière de t'exprimer devant Dieu. Tu manques de soleil. La particularité de ces fruits de fin de saison, c'est qu'ils manquent de soleil, donc ils manquent de sucre. Ils ne sont pas sucrés. Moi, j'ai eu goûté des fraises qui ont poussé sous serre, là, au mois de décembre. Je les ai croquées, elles n'avaient aucun goût. Elles avaient l'apparence de fraises, mais elles n'en avaient pas le contenu dans le goût. Et ce que nous voulons ce matin, c'est avoir du goût. Apporter une louange à notre Dieu qui soit sucrée. Alléluia. Apporter une louange à Dieu qui sera une louange spontanée, et on le verra plus tard. Non pas une louange qui manque de soleil, mais ma louange, elle est animée du soleil de justice. Shemesh Zdaka, Jésus, le soleil de justice, celui qui éclaire mon âme, celui qui éclaire mon cœur, celui qui vient me visiter de sa présence et qui met en moi un débordement de louange et d'adoration pour lui, le seul roi. Le texte de la version massorétique, le texte hébreu, et le texte de la Septante, qui est la traduction grecque du texte hébreu, nous rappelle certaines choses. Le texte massorétique nous rappelle que le mot utilisé pour exprimer l'expression « le regard de Dieu favorable sur l'offrande » concernant Abel est le mot « sha'a », affirmé dans le cas de Abel, mais nié dans le cas de Caïn. Ce mot, chez nous les juifs, exprime comme le regard de la foi. Et lorsque je m'approche de Dieu, lorsque je lui apporte quelques paroles de louange et d'adoration, je dois les apporter avec le regard de la foi. Un regard plein de confiance, non pas une attitude et un comportement rituel, religieux, qui ne sera pas spontané, mais comme, je dirais, un rituel. Je viens chaque dimanche avec une louange et qui est constamment la même. Je me souviens d'un frère, j'étais capable de dire ce qu'il allait exprimer dans le culte avant même qu'il ait ouvert la bouche. Il répétait un psaume qu'il avait appris par cœur, que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Et c'était tous les dimanches, excusez-moi l'expression, la même rengaine. Moi je vous dis ce matin que même notre louange doit être inspirée par le Saint-Esprit. J'irai même jusqu'à vous dire que nos prières dans les réunions de prière se doivent d'être des prières inspirées par le Saint-Esprit. Ça nous est arrivé dans des réunions de prière à vivre des visitations profondes du Saint-Esprit et tout à coup à recevoir la pensée de prier pour un tel et une telle qui était dans une situation effroyable. Nous ne le savions pas, mais le Saint-Esprit nous avait inspirés. Et à l'instant même, on s'est mis à prier. Ma femme elle-même, un jour, s'est arrêtée dans la cuisine alors qu'elle était en train de cuisiner, de préparer le repas. Et elle a vu comme une puissance de ténèbres s'abattre sur la cuisine. Et au moment même, elle s'est arrêtée de cuisiner, elle a compris qu'il y avait un combat, qu'il y avait un enjeu spirituel. Elle s'est mise à intercéder et au même moment, moi j'étais sur l'autoroute, un camion est venu me couper la route et pour l'éviter j'ai dû me rabattre sur la gauche et il y avait un autre camion qui me doublait à vive allure et là j'ai fermé les yeux, j'ai mis mes deux mains sur le volant, j'ai crié Yeshua, Jésus. Et lorsque j'ai réouvert les yeux, j'étais passé, les deux camions étaient passés et avaient écrasé la voiture qui était devant moi. Et moi je suis passé entre les deux voitures, entre les deux camions. Nous voulons des prières inspirées. Nous voulons être à l'écoute de la voix de Dieu. Dieu parle, alléluia. Nous sommes dans un temps où Dieu ne cessera de parler. Il va parler, il va continuer de parler. Et il faut que nos prières, nos louanges, notre adoration, notre méditation de la parole de Dieu soient comme, je dirais, accompagnées du regard de la foi. Et le regard de la foi correspond toujours à un événement important. Quant au texte grec de la Septante, le mot « chat » va être traduit de deux façons. La première façon, c'est le mot « ephorao » qui signifie « agréé » pour Abel, et « prosecho » qui signifie « prêter attention », nous rappelant que Dieu ne va pas prêter attention au sacrifice de Caïn. Et ce matin, quel est le sacrifice que je peux apporter à mon Dieu? Un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Nous offrons nos corps, notre âme, notre esprit, nous l'offrons au Seigneur et nous les laissons s'imprégner de la puissance et de la manifestation du Saint-Esprit. Et nous voulons offrir à Dieu ce qu'il y a de meilleur, un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Mais quand je considère le texte biblique et que je considère les mots hébreu concernant le mot sacrifice, le premier mot qui vient quand on est un bon juif qui connaît un peu la Torah, c'est le mot korban. Korban, c'est le sacrifice. Ça vient du verbe le'it karev, se rapprocher, de karov, être près de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'en offrant les plus beaux billets de banque que vous avez dans votre sac, dans le tronc, vous vous êtes rapproché de Dieu. Il y a des gens qui pensent et qui sont dans cette mentalité des œuvres pour obtenir la faveur de Dieu. Non, ce n'est pas d'abord par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres que nous allons obtenir la révélation et la manifestation de Dieu, mais c'est par la foi. On a vu des gens qui n'avaient rien à donner à Dieu, mais qui étaient bénis au quotidien, constamment bénis. Ils n'avaient rien, mais ils n'avaient tellement rien que la seule chose qu'ils avaient, c'était la bénédiction de Dieu. Et quand un homme possède la bénédiction, il possède tout. Moi, je préfère rester sans le sou et avoir Dieu avec moi. Je préfère être finalement dans une situation peut-être de précarité, certes, mais d'avoir la révélation et la connaissance de Dieu. Je sais que de le connaître m'assure chaque instant de chaque jour de ma vie. À lui soit la gloire. Il pourvoit à chacun de nos besoins selon sa richesse avec gloire. Mais à l'instar du mot corban, dans le texte de Genèse chapitre 4, le mot concernant l'offrande, dans le chapitre 4 au texte originel, est le mot mincha, qui n'est pas un mot habituel pour exprimer l'offrande, qui est, comme je vous l'ai dit, le mot korban, qui désigne le pardon, l'expiation, l'inauguration, la purification, le repos, le shabbat. Et ce mot korban me rappelle que certes, un jour j'ai expérimenté la grâce de Dieu, j'ai expérimenté le pardon de Dieu, j'ai expérimenté l'expiation de mes péchés, j'ai expérimenté l'inauguration d'une vie nouvelle, quelque chose de nouveau pour moi, j'ai expérimenté la purification, j'ai expérimenté le repos, le shabbat, la paix. Le shabbat, il est en Yeshua, c'est Jésus qui me donne le repos de mon âme. D'ailleurs, vous allez considérer que le seul commandement que dans la seconde alliance, le Seigneur lui-même ne mentionne pas, c'est l'observance du Shabbat. Parce que le Shabbat, il est en lui. Quand moi j'ai la paix de Dieu, je suis dans le Shabbat. Mais pas que le samedi, du lundi au dimanche. Et moi je veux être dans la paix de Dieu, du lundi au dimanche. C'est important pour moi d'être dans cette paix de Dieu. Mais quand j'ai expérimenté ces choses, ça ne suffit pas. Dieu ne me demande pas de rester dans une maintenance où je vais me retrouver dans la paix, dans l'assurance de la vie éternelle, dans l'assurance du pardon de mes péchés, assis confortablement sur ma chaise en attendant que les choses se passent. Non ! Non ! Tu ne peux pas rester spectateur, mais tu es un acteur. Un acteur. Dans le culte, tu es un acteur. Non pas un acteur qui va jouer la comédie, et qui va porter un masque, hein, vous le savez. Vous savez que le mot hypocrite en grec, c'est le masque. Le masque en grec, c'est hypocrite. Et vous savez que dans l'hébreu, se déguiser, l'eitrapes, vient du verbe l'eitrapes, chercher. C'est la même chose, quasiment. Et le mot vêtement, bgadim, vient de l'expression boged bgida, traite, trahison. Nous n'avons pas à nous déguiser, celui qui se déguise, c'est le diable. Il se déguise en ange lumière. Mais moi, quelle que soit la situation que je traverse, quels que soient les événements que je vis, quelles que soient les preuves, quelle que soit la difficulté, le combat qui est le mien, je ne viens pas en portant le masque dans la maison de Dieu. Mais j'ai une armée de frères et de sœurs ici, non pas de spectateurs, mais d'acteurs qui sont prêts à prier pour moi. Alléluia. Comment croyez-vous que moi je sois passé au milieu des gens avec des couteaux, avec des revolvers, et que je sois présent, chair et en os, devant vous ce matin? Votre pasteur pourrait vous témoigner de ce qu'on a vécu, des choses terribles, des menaces terribles. Pendant des semaines, j'ai déambulé dans les rues de Jérusalem avec des gardes du corps, des malabars. Même le petit s'en souvient des malabars, non ? Hein, les Géorgiens qui venaient m'escorter là, qui ont payé de fortes sommes d'argent parce que ma vie était en danger. J'avais une fatwa sur ma tête. Vous savez ce que c'est une fatwa ? Pas une fatma, hein ? Non, c'est pas la même chose, hein ? Une fatwa ! Une condamnation à mort, condamné. Mais il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur son peuple. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et ce matin, si je suis là, c'est parce que j'avais une armée de frères et de sœurs à La Roquette et partout dans le monde qui priaient pour nous, qui priaient pour notre sécurité, pour notre protection. Dieu est notre protection. Mais la prière des frères et des sœurs, c'est une protection. Vous n'êtes pas spectateur. Dites amen. Amen. Dites avec moi, je ne suis pas spectateur. Mais je suis acteur, acteur dans la vérité, sans aucun masque, sans hypocrisie. Je viens dans la maison de Dieu avec ma joie, mais avec mes peines et mes fardeaux. Et quand je suis dans la peine et dans le fardeau, je le partage avec mes frères et sœurs. J'ai l'humilité de dire, priez pour moi, prie pour moi mon frère, prie pour moi ma sœur. Regarde dans quelle situation je suis. Mais il ne faut en aucun cas que la situation que je suis en train de traverser ne soit un frein à ma reconnaissance. La prière, c'est pour moi. Oui ou non? Je prie pour moi. Je quémande, je demande, je mendie Dieu, Seigneur, je t'en supplie, exauce. Regarde dans la situation où je suis. On est le mois de juillet, il me manque 5000 euros pour payer le loyer. À 8h30, la prière, à 10h, une enveloppe avec 5000 euros. Je vous donne cet exemple d'argent, mais il y a d'autres exemples hors de l'argent qui nous prouvent que Dieu est avec nous. Et que quand il a décrété quelque chose, c'est lui qui s'occupe de tout. On a besoin d'avoir cette foi, de croire que notre Dieu est à l'œuvre et qu'il est celui qui nous secourt. Et je peux venir dans la maison de Dieu, dans cette réunion de prière, tout le temps en train de quémander, de demander. Le culte, c'est pour Dieu. L'étude biblique, c'est pour moi. Je viens à l'étude biblique, vous avez un pasteur qui vous enseigne ici. Moi, je peux vous le dire, il vous enseigne, c'est sûr. Vous en avez un autre en face de moi, il vous enseigne aussi. Sur Israël, il est incollable, non? Hein? Un peu, quand même. Oui. Il connaît un peu Israël, non? Moi, tu sais, mon frère, que j'ai toutes tes notes. Hein? Ah, tu ne le savais pas? Mais j'ai toutes tes notes. Il ne le savait pas, tu vois? Ah, mais j'en ai, comme ça, des piles de notes sur Israël. Il y a des gens qui vous enseignent ici. C'est pour vous. Vous êtes enseigné, vous êtes bâti, reconstruit, remonté, édifié, fortifié, encouragé. La prière, vous demandez, vous recevez, alléluia, Dieu est bon. Est-ce que vous êtes exaucé dans vos prières? Qui a été exaucé dans sa prière cette semaine? Levez la main. C'est beau ça, hein, beaucoup de mains qui se lèvent. Mais le culte, c'est pour Dieu. Le culte, c'est pour Yeshua, c'est pour Jésus. Le culte, il est pour le roi des rois, pour le seigneur des seigneurs. Et je veux me rappeler que le mot mincha désigne une offrande gratuite, libre, faite exclusivement par amour, une offrande spontanée, dans le but de rendre grâce, dans le but d'apporter ma louange, mon adoration. Comment le dimanche matin, je peux entendre des prières? Seigneur, secours-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ce que tu as à me donner. Ça, c'est pour la réunion de prière. Dans le culte, corps, âme et esprit, on loue le Seigneur. Et si le mot louange en français, c'est un mot, en hébreu, c'est 5 mots. Et il y a des gens, des fois des bien-aimés qui viennent au premier culte, c'est un peu plus calme. Vous savez, j'observe tout, je vois tout, moi. Une chose que je vois surtout, c'est l'estrade. Je vois que le batteur, il a changé de baguette. Entre le premier culte et le deuxième culte, il a changé de baguette. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes symptômes chez nous, on a les mêmes phénomènes. On a été obligé de mettre le batteur dans une cage. On a été obligé de l'enfermer parce que pour certains, la drum, c'est le diable. Il y a des gens qui ont une notion de la louange en France qui me dépasse, alors que chez nous, en Israël, c'est 5 mots. C'est chanter avec sa voix, avec le don que Dieu nous a donné naturellement. C'est pousser des cris de joie, et je ne vous le pousse pas parce que vous allez croire que c'est un mariage arabe. C'est louer avec son corps, louer avec des danses, louer avec des instruments. Donc quand il y a quelqu'un qui se dandine sur l'estrade, il ne faut pas dire qu'elle est possédée ou qu'elle a un démon ou que... Non, non. Et quand vous voyez les Africains à côté de vous qui sont en train un peu de s'activer, et vous êtes un peu comme un santon de la crèche à Aubagne là-bas, là, en exposition, ne vous sentez pas gêné parce qu'en fait c'est celle qui se dandine qui a raison. Ah, tu peux acclamer le Seigneur, hein? Kolo Yesu, Kibiki Sangai, Mindele, Dieu manifeste sa grâce. Hein. Moi j'aime le peuple africain pour ça, la spontanéité devant Dieu. Ils ont des tas de problèmes, les Africains de ma communauté, à moi, ils ont des problèmes jusque-là, des problèmes de papier, tout ce que tu veux. Moi je suis pas pasteur, je suis assistante sociale avant. Et je vais dans tous les bureaux, dans les tribunaux pour eux, je travaille pour eux et beaucoup ont reçu des papiers à cause du travail qu'on a pu fournir. Mais ils ont des problèmes jusque-là. Mais quand vous les voyez au culte, ils n'ont plus de problèmes. C'est fini, ils sont dans le ciel, ils sont déjà dans le ciel. Il y a même des Congolais qui croyaient que Jérusalem, ça n'existait pas, c'était dans le ciel. Donc j'étais obligé de leur dire au Congo que Yerushalayim, c'est un duel, il y en a deux. Il y a la terrestre et la céleste. La terrestre, elle va être brûlée, la céleste, elle est permanente. Alléluia! Nous travaillons pour la Jérusalem céleste, mais quand on est devant Dieu, il faut être spontané. Alléluia! Ah, mais nous les Français, on est cartésiens, on est comme ceci, on est comme cela, on est des Occidentaux, mais dans le stade de foot, moi, à Marseille, quand j'étais là-bas, il y avait 61 400 spectateurs, des fous, pour voir des gens qui perdaient en plus. Ça fait rien, ils ont perdu, mais on est quand même avec eux. Vous inquiétez pas, Paris perdra aussi, vous inquiétez pas. voyez. Mais quand tu vois des Français dans les stades, tu te dis, mais moi j'ai honte. Je me dis, mais attends, dans l'église, des fois, on est là, on est comme ça, on ne veut pas bouger. Mais quand l'Esprit de Dieu agit, il agit sur nous, sur ce que nous sommes des êtres humains, nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Moi, je vous dis que dans les synagogues, ça danse. Il y a Simchat Torah qui va venir, ils sont en furie. Ils sont même dans les rues, ils sortent de la synagogue avec le Sefer Torah, ils dansent, ils hurlent, ils chantent devant leur Dieu. Et nous qui avons le Dieu, leur Messie, que nous leur annonçons, qui est venu pour eux d'abord et qui s'est révélé à nous, il nous a sauvés, il nous a rachetés. Quand on est dans la maison de Dieu, on ne s'exprime pas. On se met des barrières, on se prive de la bénédiction de Dieu, de la visitation du Saint-Esprit, que notre louange ce matin soit une louange spontanée, que je sois libre devant mon Dieu, que j'arrête de me poser des tas de questions, mais que je lui apporte la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, le règne, parce qu'il en est digne. Le texte grec de la Septante traduit le mot mincha par deux mots différents. Pour Caïn, c'est le mot tousia, et pour Abel, c'est le mot dorion. Tousia va désigner une offrande sans importance. Il y a des bien-aimés, malheureusement, qui apportent des offrandes sans importance. Dieu ne daigne même pas les regarder. Des choses ordinaires, des choses banales. Une offrande, quelque part comme celle de Caïn, dont on garde la meilleure partie pour soi. Il y a des gens qui sont capables de garder ce qu'ils ont de meilleur pour eux et de donner à Dieu ce qu'ils ne veulent plus. Et le plus mauvais de tous les témoignages, de ce qui m'a choqué le plus dans mon ministère, c'est de voir des croyants qui avaient un salon dans leur appartement. C'était un salon, ils se sont dit, bon, quand on vient à l'assemblée le samedi, on n'a pas d'endroit intime pour s'asseoir, éventuellement boire un café ensemble. Alors on va amener un salon de notre maison. Mais ils ont amené un salon qu'ils ne voulaient plus parce qu'ils le remplaçaient par un nouveau. Et le salon qu'ils voulaient mettre dans la maison de Dieu était un salon qui était taché avec des fuites de leur nouveau-né. Là. Vous savez, il y avait des auréoles. Comment penser que dans la maison de Dieu, même si on n'est pas attaché à la pierre, que le plus important c'est les pierres vivantes, vouloir faire asseoir tes frères et sœurs sur un salon avec des auréoles de pipi, pour être franc et direct, un peu cru. C'est la maison de Dieu. Moi, pour la maison de Dieu, j'offre ce qu'il y a de meilleur. Oui ou non? Après, ma maison, on verra. Mais pour la maison de Dieu, je vais offrir ce qu'il y a de meilleur. Nous voulons que la maison de Dieu soit belle. Nous voulons qu'elle soit bien arrangée. Nous voulons qu'elle soit accueillante. Nous voulons avoir des comportements la semaine et des comportements dans la maison de Dieu qui sont les mêmes que la semaine. Avoir des frères et sœurs dans la tempérance, l'amour, la patience, la miséricorde. Nous parlons avec douceur les uns les autres. Nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour la maison de Dieu. Alléluia. Dorion rejoint le mot mincha, expiation spontanée, liberté, action de grâce, louange, adoration. À Dieu soit toute la gloire. Ce matin, je suis responsable. Je suis responsable. Et lorsque Dieu va s'adresser à Caïn, il va lui dire, où est ton frère? Où est ton frère? Et la question, elle t'est posée à toi. Où est ton frère? Où est ta sœur? Où sont tes prochains? Qu'as-tu fait de tes voisins, de ceux dont tu savais qu'ils étaient dans une crise, et alors que tu avais la capacité de communiquer avec eux depuis que tu sais qu'ils sont en crise, que tu entends des hurlements dans l'appartement, tu es dépassé par cet événement et tu les fuis au point de te dire « je ne veux pas me mêler de ça, je ne vais pas leur parler », alors que Dieu te dit « mais va leur parler ». Va leur dire que moi je suis ce roc sur lequel on peut bâtir une maison. Va leur témoigner, va leur parler. Où est ton frère? Où est ta sœur? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Nous sommes tous responsables. Répète avec moi encore une fois, je ne suis pas spectateur, mais je suis acteur. Acteur de la vérité. Alléluia. Et je vais afficher encore un peu d'hébreu. Très simplement, et là vous allez constater le mot responsabilité, achariut, qui a donné aussi le mot achariut, garantie. Vos pasteurs, vos responsables du conseil d'administration, vos frères et sœurs dans la louange et l'adoration, les diacres, les anciens, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs, ont besoin que vous leur apportiez des garanties. On a besoin... Nous, peuple de Dieu, d'apporter pour le royaume de Dieu des garanties. il faut apporter des garanties. Et dans la notion de responsabilité, je continue avec la première lettre du mot Achariout, j'ai le Aleph qui rappelle le Ani. Je suis responsable. Amen. Et répète avec moi, je suis responsable. Le problème dans la société dans laquelle nous vivons, c'est que les gens de cette société fuient leurs responsabilités. Oui ou non? Ils fuient, ils ne remboursent pas les crédits. Oui, ils pourraient rembourser le crédit, mais ils préfèrent aller en reprendre une autre pour acheter, en plus de la maison, une voiture. Quand les échéances arrivent, ils fuient la responsabilité. Et ils essaient de discuter avec les banques pour être débarrassés du crédit. Les gens fuient leur responsabilité. Ils fuient la responsabilité familiale. Il y a des hommes qui fuient leur responsabilité familiale, qui abandonnent des femmes avec des enfants. Il y a des femmes qui abandonnent leur responsabilité familiale. Elles abandonnent leur mari. Et des fois même, elles laissent au mari les enfants. Je connais ça. Ça existe aussi. On est dans une société où l'être humain fuit sa responsabilité. Il n'assume plus. Il est dépassé, débordé, dépassé par les événements. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sommes dépassés par les événements. Nous sommes de ceux qui affrontons les événements, quels qu'ils soient. Nous les affrontons parce que celui qui est en nous est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant. Il nous inspire, il nous conduit, il nous dirige. À lui soit la gloire. Le jeu, moi, je suis responsable. Moi, je suis responsable, j'ai des gens en responsabilité. Et j'ai une école au milieu des délinquants. On a une école placée dans un lieu stratégique de Jérusalem, dans un lieu qui n'est pas facile. Mais on voit que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous ouvre des portes. Il y a un de ceux qui voulait me tuer, il était au culte avec nous, un samedi. Un arabe au milieu des juifs en train de louer le Seigneur. Dieu est tout puissant, je suis responsable, mais regarde, je suis responsable de qui? Ah, de mon frère. Je suis responsable de mon frère. Est-ce que tu sais que tu es responsable de ton frère? Tu es responsable de ta sœur. Nous sommes responsables les uns des autres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 18 nous rappelle, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Qui est mon frère? Et là je clique encore. Après le frère, je clique et j'ai le mot Acher. Acher. On est toujours dans le mot Achariout. On est toujours dans le mot responsabilité. Achariout, garantie. Le mot Ach, frère. Acher, l'autre. L'autre, c'est qui l'autre? C'est qui l'autre? L'autre, c'est même celui qui met la ceinture pour venir se faire sauter, pour me tuer. C'est lui l'autre. Moi, je suis juif, mais au mois de novembre, avec les frères de l'AEP, je collabore avec un pasteur arabe israélien qui va faire venir des pasteurs arabes des territoires autonomes. Et on va rentrer en Jordanie pour rencontrer des pasteurs des Assemblées de Dieu à Amman pendant 4 jours. Et de là, on va partir à la frontière jordano-syrienne pour apporter des milliers d'euros et des moyens de nourriture, de subsistance pour les chrétiens de Syrie qui sont dans de grandes souffrances. Ça, c'est l'autre. C'est ça, l'autre. C'est ça. Bien sûr, je peux annoncer directement devant votre pasteur que si vous voulez soutenir l'AEP et l'action missionnaire des Assemblées de Dieu pour ce projet, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Mais l'autre, c'est mon frère, celui qui n'est pas comme moi. Celui qui me hait, celui qui veut me tuer, c'est lui mon frère. C'est mon prochain, ce n'est pas forcément celui qui est comme moi, qui pense comme moi, qui agit comme moi, qui parle comme moi, qui vit comme moi. Ce n'est pas lui mon prochain. Mon prochain, c'est celui qui ne pense pas comme moi aussi. C'est celui qui est différent de moi. Moi, j'ai vu des assemblées chez les Toubab ou les Mindélé, où tu vois les Mindélé, les Toubab ou les Blancs quitter l'église parce qu'il y a trop de noirs dans l'église. Vous rigolez? Vous riez? J'ai entendu des choses de la bouche de pseudo-croyants abominables. Parce que comment ils vont faire dans le ciel? C'est l'histoire de cet homme qui disait, de cette femme qui disait à son pasteur, mais il y a ma bonne qui est dans l'église, elle aussi elle va aller dans le ciel? Et le pasteur lui a dit, oui, elle lira, mais vous non. Vous n'aurez pas de problème parce que vous n'irez pas, vous. Est-ce que vous croyez que Dieu fait des différences? Moi, je suis fier de mon passeport ivoirien. C'est le premier que je sors quand les douaniers m'arrêtent. Je provoque un peu. Quand la sécurité israélienne m'arrête, j'ai dit, Ezet Seva, Trotsa, ou Atarotse, quelle couleur tu veux? Le vert, le bleu ou le rouge? Moi, je suis fier du peuple de Dieu. Je suis fier parce que dans le peuple de Dieu, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. On est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous des frères, mais nous sommes tous des acteurs. Alléluia. De toute langue, de toute race, de toute couleur, alléluia. On est tous des acteurs du royaume de Dieu à notre Dieu seul. Soit toute la gloire l'autre. Ou je pourrais continuer avec la dernière diapo, et ça sera ma conclusion. Le acher, acharé. Je suis responsable, achariut, achayut garantie, de ce qui va se passer après. Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous êtes fataliste. Vous êtes branché sur BFM TV. Et vous êtes déprimé. Vous changez, vous allez sur, pour ceux qui aiment Israël, 24 News, vous déprimez encore plus. Vous allez sur TF1, vous déprimez. Vous écoutez l'actualité, vous déprimez. Vous attachez plus d'importance à ce que vous entendez aux informations, et vous croyez que nous, on est à feu et à sang là-bas en Israël, ce qui n'est pas vrai du tout. Juifs et arabes, on vit ensemble, et on vit des choses extraordinaires ensemble aussi. Vous êtes tous sur les informations et vous entendez que, heureusement, une Kalachnikov s'est enrayée dans un train, sans quoi c'était le carnage. À tel point que tu as eu peur et que toute la semaine, tu es parti à pied à ton boulot. C'est pathétique. Pathétique. Tu manques de foi. Tu as peur parce que tu regardes trop les informations. Lis ta Bible. Et Dieu te rappellera que ces choses vont t'arriver, mais que toi, tu es sous la protection, sous le sang de Jésus. Alléluia! Ça, c'est le regard de la foi. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Attends, je crois que je vais pas aller là. Ça craint, là. On sait pas, on va me braquer, on va me prendre mon téléphone portable, on va me voler mon sac, on va... Non, ça, c'est pas la confiance en son Seigneur. Dieu prend soin de nous. Il nous rappelle d'être prudents, certes. Mais Dieu prend soin de nous. Et je suis responsable de ce qui va se passer après. Les jours mauvais arrivent. On ne passera peut-être pas la grande tribulation, mais on vivra les prémices de la grande tribulation qui sont arrivées. Parce que déjà, quand on a un petit rhume, on ne vient pas au culte. Alors la grande tribulation, tu ne vas même pas venir ni au culte, ni à la réunion de prière, jamais. Hein. Tu ne mettras plus les pieds dans la maison de Dieu. Donc quand il y en a qui vous disent qu'ils vont traverser la grande tribulation, moi je ne les crois pas. Parce que je vous dis que dès qu'ils ont 37,8 de fièvre, oh, je ne vais pas au culte ce matin. Alors tu vois, ah, j'ai éternué, oh, je vais pas au culte, j'ai éternué, je pense que je suis enrhumé, la clim elle est trop forte là, hein, et ça va aggraver ma situation, je vais pas au culte. Non mais oh, vous vous rappelez que en Afrique, mes compatriotes, là, tu faisais 5 heures de marche pour aller au culte. Moi j'ai vu des gens qui ont traversé les villages, ils sont arrivés au culte, ils ont ouvert des pagnes pour me remettre des cadeaux avant le culte. Je pouvais pas les refuser parce que je les vexais, ils voulaient toucher le petit frère de Jésus. Ils avaient entendu à la radio que le petit frère de Jésus venait prêcher à Cocody. 5 heures de marche, ils avaient le maquillage traditionnel, le plus beau des boubous. Ils sont 5 heures de marche pour venir entendre la parole de Dieu. Et là, tu as éternué, tu ne viens pas dans la maison de Dieu. Où elle est ta louange spontanée? Où elle est ton attitude de mincha? De quelqu'un qui vient devant le Seigneur pour lui apporter de manière spontanée la louange, l'honneur, la gloire qui lui est due? Quelles que soient les circonstances que tu traverses, les épreuves, les difficultés, ça ne doit pas mettre ombrage à ta relation avec Dieu, à ce que tu dois lui donner. Avant de lui donner ton argent, donne-lui ton corps, ton âme et ton esprit. Donne-lui ton âme, donne-lui ta louange, ton adoration. Apporte-lui en offrande ce qu'il y a de plus spontané en toi, de plus naturel, de plus généreux. La puissance de l'Esprit de Dieu qui te pousse à lui dire combien tu l'aimes, combien il est bon. Et combien il est fidèle. À lui seul ce matin soit toute la gloire, la puissance, le règne et l'honneur. Béni soit son nom. merci pour ta parole. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta parole. Ta parole n'est pas le livre de plusieurs écrivains qui ont écrit de bonnes choses. Nous ne sommes pas des philosophes de la parole de Dieu. Nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ta parole. C'est toi qui parles. Tu nous as révélé le mystère de cette offrande qui a été acceptée, de cette offrande qui a été rejetée. Merci pour ta parole. Parce que je sais que ce matin, tu vas agréer ma louange et mon adoration. Tu as agréé ce que je t'ai apporté de plus précieux, ce qui t'est dû, les remerciements, Seigneur. Tu te réjouis dans ton ciel de gloire lorsque tu entends la reconnaissance de tes enfants qui s'expriment devant le trône, dans la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est la maison de la famille de Dieu, c'est ma famille ici, c'est le peuple de Dieu. Nous nous aimons et nous nous réjouissons ensemble et nous pleurons ensemble et nous combattons ensemble, nous luttons ensemble. Seigneur, nous voulons continuer ensemble. Il n'y a pas l'église du premier culte, l'église du deuxième, l'église du troisième, l'église du quatrième. Nous sommes l'église tout court, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Seigneur, à toi ce matin soit toute la gloire, la puissance, le règne et l'honneur. Merci Seigneur. Amen. Voilà simplement cette merveilleuse Bible qui vient de sortir. Elle est à la disposition. Si vous voulez la commander, on a une offre promotionnelle sur la CLC. Une version King James avec une fermeture éclair, bouton pressoir, cuir, papier indien, 120€. Nous, vous avez deux versions, hébreu, français. Et l'offre de lancement, c'est 70€ sans les frais de port. Voilà. Et je sais que ce matin, nombreux ont été ceux qui l'ont commandé. Vous la commandez, vous pouvez la donner à un juif à qui vous témoignez et vous avez des moyens de l'atteindre. Parce qu'à la fin, il y a les parachutes des synagogues pour les juifs ashkénazes, séfarades et yéménites. Et vous pouvez leur apporter aussi tous les tableaux des versets de l'Écriture qui annoncent Yeshua dans la première alliance, Jésus. Voilà, si vous l'achetez, vous soutenez l'œuvre de Dieu en Israël, vous continuez à nous soutenir comme vous l'avez fait. Merci, mais soutenez-nous surtout dans la prière, c'est le plus important. Que Dieu vous bénisse, merci.
Merci Jacques. Voilà, vous verrez dans le hall d'accueil.